Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Info.
Bonjour Mirwais.
Bonjour.
Vous êtes le membre fondateur du groupe Taxi Girl, né à la fin des années 70, certes, mais vous êtes aussi d'abord un artiste et un musicien qui a su proposer de nouvelles sonorités, notamment celle de la musique électronique. Quand on parle de vous, Mirwais, on pense aussi et évidemment à votre casquette de producteur d'albums devenu légendaire hein, et culte d'ailleurs pour Madonna.
Compositeur aussi, hein, les gens oublient, hein. Je suis producteur mais je compose.
Voilà, notamment Music et American Life qui ont relancé la carrière de la Madonna. Et comme vous aimez écrire, vous avez signé Les Tout-Puissants 2022, votre premier roman.
Oui.
Aujourd'hui, vous nous offrez un condensé de vous-même et de ce qui vous définit avec un ouvrage qui s'intitule Taxi Girl 1978-1980 chez Séguier, où l'histoire en coulisses des quatre premières années de ce groupe considéré comme objet artistique par beaucoup d'artistes majeurs. Et comme le montre la photo en couverture, Laurent Sinclair, Daniel Darc, Stéphane Erard, Pierre Wolfsom et vous-même étiez arrogant, fier, indomptable, déterminé à faire la musique que vous aimiez en vous fichant de tout. Vous écrivez d'ailleurs dans votre préambule « Nous avions tout pour nous et pourtant tout nous manquait ». Ça veut dire quoi ?
Il nous manquait l'envie de réussir. Si vous rentrez dans ce genre de métier et que vous n'avez pas l'envie de réussir, bah, tout nous manque. C'est ça en fait.
C'est étonnant parce que vous racontez donc effectivement les quatre premières années, celles qui restent le plus en mémoire avec la réaction et la création du groupe. Et le chaos hein, qui a suivi, notamment le décès de Pierre Wolfsom, votre batteur qui a succombé à une overdose d'héroïne au milieu du hit festival de votre tube Chercher le garçon. Ce livre est le premier volet d'une trilogie. La drogue était de mise, elle revient régulièrement dans cet ouvrage, elle est même au cœur de cet ouvrage. Finalement, ce groupe, c'est aussi une photo d'une époque.
Exactement, et il y a aussi l'aspect... sociale et politique. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que cette période 78, j'irais 77, 81, 82, n'est pas clairement identifiée sociologiquement, alors qu'en fait elle est très très intéressante parce que c'est la jeunesse de beaucoup de choses. Ensuite, dans le livre, bon, en filigrane, je parle de la guerre d'Afghanistan parce que je suis moitié afghan par mon père et j'ai vécu là-bas. Et on a changé de monde en fait à ce moment-là. Quand on a sorti en 1980, donc Mannequin, notre premier single avec Taxi Girl, guerre d'Afghanistan, bon, moi je suis devenu réfugié politique à l'époque, je pouvais pas faire autrement. Ensuite, Reagan est arrivé. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, il y a le monde d'avant, le monde enfin digital. Hein. C'est-à-dire, là, il y a eu le même type de basculement qui était plus politique. Et donc, cette période est très intéressante, le pré-Reagan, pré-guerre d'Afghanistan. Voilà.
Vous le précisez ça à chaque fois. Vous remettez dans le contexte, effectivement, tous ces conflits étaient déjà au centre, effectivement, du jeu, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Et de cette envie, finalement, que vous aviez dès l'âge de 12 ans de fonder un groupe parce que justement vous aviez besoin de sortir de ça.
En fait, mon histoire n'est pas très commune. J'ai vécu en Afghanistan. Je suis né en Suisse. Enfin, c'est compliqué. Ma mère était italienne. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans en Afghanistan. Et après, mon père travaillait pour le gouvernement et il était nommé pour une mission. Et puis finalement, on n'est pas retourné en Afghanistan. Tant mieux d'ailleurs. Mais on n'était que 4 de notre famille directe. Donc, il fallait se retrouver une famille, quoi. C'est-à-dire, c'était pas suffisant. Et moi, j'ai flashé sur la musique. J'avais besoin. Parce qu'il y avait beaucoup... Bon, on avait des problèmes, comme toutes les familles. Hein. C'est pas non plus Cosette, hein, l'histoire. Hein. C'est-à-dire, mais on avait des problèmes et il fallait que je trouve quelque chose. Et la guitare est arrivée et la musique.
Ça va être l'échappatoire. Hein. L'idée, c'est de faire des riffs de guitare. Voilà, ça va être...
Oui, moi, je voulais faire des solos. Au début, la rythmique ne m'intéressait pas du tout. Et après, les solos ont été remplacés par la composition.
Cela dit, l'écriture aussi, hein, elle va être au cœur de votre vie. L'idée, c'est de raconter des choses, de faire avancer les choses, de faire des focus sur ce qui vous touche.
Une
fois, vous racontez qu'à aucun moment, vous ne vous êtes inquiété du regard des autres sur ce que vous faisiez. Vous fichiez de tout.
C'est une posture. C'est-à-dire de dire, oui, on s'en fout, mais la plupart des gens s'en foutent pas. Nous, très honnêtement, on s'en foutait, et on s'en foutait tellement qu'on s'est fait, et donc je l'explique en long, en large, à travers, on s'est fait carrément arnaquer. Jusqu'au dernier centime, hein, Taxi Girl. Ce qui est quand même la preuve, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, je m'en fous, mais ils ont quand même l'œil rivé sur le compte en banque hein, et sur la calculette. Nous, c'est la preuve qu'on sautait tout. Et donc, on a été des losers magnifiques, mais quand même, on a fait de la bonne musique. Donc c'est ça le principe.
Vous parlez du show business avec effectivement cet échec invraisemblable du groupe qui aurait dû effectivement être autrement. Vous dites, nous étions l'angle mort de cette France qui nous échappait, son authentique fantôme avec chaîne et boulet au pied. Nous étions ceux qui dérangeaient et pas conviés ou validés par le show business d'alors, condamnés à rester invisibles, c'est-à-dire.
Le problème, c'est qu'on était trop... En anglais, on a le terme weirdo, c'est-à-dire bizarre, bizarroïde. Comme beaucoup d'autres groupes de l'époque, on n'était pas les seuls. Mais nous, on était vraiment très particuliers parce que je pense que c'était l'assemblage... Nous étions antinomiques tous. Vous savez, à la fin des années 70, la plupart des groupes, tout le monde ouvrait sa gueule dans un groupe. Mais nous, encore plus que les autres. Et en plus, on était assez littéraires. Donc Daniel, il venait aussi de la Fédération anarchiste. Bon, moi, on pouvait même pas considérer que j'avais une classe sociale. Je venais d'Afghanistan, c'était trop bizarre. Laurent, bon, il venait d'Anières, on s'était rencontrés dans le 18e. Et donc, ça donnait un mélange quand même assez détonnant. Et surtout, on était en rivalité, tous. Alors que la plupart des groupes, ce sont souvent des, je dirais, des amis. On n'était pas très amis, puisqu'on s'est rencontrés peut-être 6 mois ou 1 an avant. Hein. Donc c'est pour ça qu'on pouvait, on n'était pas très très amis. À part Stéphane Erard, le bassiste avec qui j'étais ami.
Et pourtant, Taxi Girl va naître quand même d'une envie d'en découdre, une envie commune. C'était quand même le point, le lien et le lien, le fil d'Ariane qui vous réunissait. Vous allez loin hein, dans cet ouvrage, c'est-à-dire que vous dites vraiment ce que vous pensez, il n'y a pas de filtre. Vous parlez de show business avec 2 S en disant que c'est comme les SS, enfin, il y a un côté vraiment que vous avez toujours rejeté.
Oui, c'est parce qu'en fait, le show business, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement, c'est un assemblage d'envie, de personnes. La meilleure façon de le représenter, c'est The Wizard of Oz, le magicien d'Oz. C'est-à-dire, c'est une amplification de ce que vous êtes, une amplification de vos désirs. Alors donc, malheureusement, nous, on est tombé dans une époque où l'héroïne, enfin, pas pour moi, mais pour Pierre, malheureusement, et pour les autres, les drogues étaient une expérience. C'est bizarre à croire hein, que l'héroïne pouvait être considérée comme une expérience, mais ça l'a été. Et les générations d'après ont compris, parce qu'il y a eu le sida, etc. Et donc, nous, on cherchait à s'injecter des choses, c'est-à-dire que ce soit des rêves ou de la drogue. Et c'est ça, le show business. C'est-à-dire, comme le rêve, alors quand je dis SS, c'est une allusion à CRS-SS, hein, c'est-à-dire le slogan 68 art, donc voilà quoi. Donc, il faut quand même ne pas vénérer ce type d'institution.
C'est ça, en fait, hein, cet ouvrage.
C'est
une façon de dire, voilà, non. Avez réussi à vous en sortir dans un milieu extrêmement hostile, Mirwes. Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu, vous, le courage, la force de vous en sortir, alors que vous avez testé beaucoup de choses?
Moi, exactement au moment où on a démarré Taxi Girl, il y a eu la guerre d'Afghanistan. Et j'étais réfugié politique. Mes parents, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Donc j'étais quand même un peu dos au mur. Hein. C'est-à-dire, pour pouvoir vous droguer, il faut quand même, à minimum, avoir un studio. Un endroit où j'avais presque plus... d'endroits parce que chez mes parents je pouvais plus habiter parce que il y avait la famille qui débarquait qui était en transit pour d'autres pays comme l'Amérique et donc je faisais quoi, c'est-à-dire si je commençais à me droguer là c'était SDF hein, direct hein. Donc ça m'a fait comprendre ça et ensuite la tolérance aux drogues curieusement et tant mieux d'ailleurs j'ai fait un bad trip un jour d'acide et ça m'a extrêmement calmé en fait.
Vous parlez de Daniel Darc. Vous mettez un K à la place du C.
Ah, au début, c'était ça. Hein.
Et justement, vous parlez de lui, vous dites que le fait qu'il soit pas associable, mais en tout cas qu'il soit une forme de contre-culture, ne vous a pas que servi. Ça veut dire que c'est difficile d'être différent, de dire des choses, de ne pas se laisser faire, de vouloir...
Bien sûr. Mais en fait, il y a aucune gloriole par rapport à ça. C'est que vous faites des choix. Il y a des discours où il y a des disques qui s'adressent à 25 personnes et d'autres à 25 millions. Et Taxi Girl, c'était... On aurait pu faire beaucoup plus parce qu'on était ce que j'appelle un groupe hybride. Les gens adorent ce mot hybride en ce moment. On était hybride, on avait les deux. C'est-à-dire on était extrême et on a su prouver qu'on avait le succès. Et depuis, moi, c'est cette ligne-là que j'adopte dans ma vie, c'est que il n'y a aucune raison, si vous n'aimez pas, par exemple, la culture dans laquelle vous baignez ou vous aimez pas, vous êtes chanteur, enfin, vous êtes artiste et vous n'aimez pas les autres artistes, ben remplacez-les, faites quelque chose. Ne restez pas dans votre coin. Et c'était le discours de Taxi Girl, enfin de cette époque surtout, qui venait du situationnisme. Créez votre situation, faites quelque chose. Ok, vous venez nous voir en concert, mais s'il vous plaît, allez faire un groupe. Ne restez pas statique. En fait, c'était ça l'idée.
Quand vous parlez justement de géopolitique, vous abordez Pol Pot, l'Afghanistan, ouais. Vous abordez tout en fait, hein, Mao, Staline. Et en même temps, vous signalez ça parce que vous dites que à ce moment-là, vous avez perdu espoir. Même à travers l'histoire, finalement, on va en revenir au SS, mais ils ont continué à vivre après la guerre. Et vous dites qu'à ce moment-là, vous avez perdu l'espoir.
Ben oui, puisque je parle de justice. En fait, c'est un passage où je parle de justice immanente parce que, effectivement, alors, donc, c'était notre petit problème à nous. On n'était pas reconnus, on avait des problèmes, on se faisait arnaquer. Et c'est à partir de là que j'ai compris, bon, oui, il n'y a pas de justice immanente puisque, à un moment donné, bon, on en revient toujours au point Goldwyn. Mais en fait, c'est un peu une escroquerie, le point Goldwyn. Parce que les SS, ils se posent là quand même, dans le mal absolu et vraiment le evil, comme on dit en anglais. À partir du moment où la plupart des SS sont morts dans leur lit, il n'y a pas de justice immanente. Hier, je regardais encore un documentaire où on voyait Kurt Waldheim, qui parlait de Israël, des sionismes, il était contre. Le mec, il était SS. Enfin, c'est quand même, il a été secrétaire général de l'ONU quand même. Donc, il n'y a pas de justice immanente, puisqu'il lui-même y a échappé. Donc, je prends cet exemple-là, mais on peut prendre d'autres exemples. Staline, enfin, beaucoup de gens, beaucoup de dictateurs, beaucoup de tueurs. C'est pour ça que c'était intéressant. Nous, on savait tout ça d'une manière intuitive, sans forcément avoir beaucoup lu. On se disait, bon, faisons l'expression artistique, faisons ce qu'on peut, faisons de la musique, exprimons-nous. Et il n'y a pas de justice immanente, oui, effectivement. Ouais.
Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de colère, finalement, dans Taxi non. Girl. On ne la ressent pas, cette colère-là. Mais par contre, cette envie d'en découvrir.
Je développe dans le second volet, 82-86, pourquoi la colère, justement, c'est une vraie question là, que vous posez, et c'est psychanalytique. Je prends un exemple, mais loin de moi de vouloir raccrocher au wagon l'idée du viol, l'emprise, mais on sait très bien, on commence à être très documenté, c'est identifié, que dans un viol, très souvent, la victime retourne la colère contre elle-même, ce qui provoque des dépressions. Et voilà, c'est ça qui s'est passé pour nous. C'est-à-dire, cette colère des années 70, on ne l'a pas eue parce qu'on l'a retournée contre nous-mêmes. Ce qui explique aussi beaucoup de groupes comme Joy Division, ce qu'on appelait la Cold Wave ou le post-punk, qui était très triste. Parce que, aller en Angleterre, moi j'ai tourné en Angleterre en 80, fin des années 70. Même les films de Ken Loach, c'est extrêmement en dessous de la vérité. C'était des mouroirs, quoi. Donc c'est normal qu'ils retournaient leur dépression contre eux. Parce qu'ils n'avaient aucun pouvoir d'action, on ne pouvait rien faire. Vous naissiez dans une ville et vous avez toutes les chances de mourir dans cette ville. Et bon, dans beaucoup d'endroits dans le monde, ça n'a pas changé. En France, ça a changé, heureusement. Et on espère que ça va s'améliorer encore.
Il y a eu une énorme vague, hein, mais vous étiez très peu. Je pense à Marquis de Sade, à Artefact. Ouais. Pendant très longtemps, vous avez été considéré, Taxi Girl, comme un groupe, entre guillemets, de jeunes modernes. Ça s'était né d'ailleurs dans le magazine Rock and Folk. Et en même temps, vous dites, le monde était laid, mais nous pensions que nous étions beaux.
Ah oui.
Il y a beaucoup de choses de résumées dans cette phrase.
Bah, il faut être un peu fier quand même. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, vous arrivez sur cette terre, vous voulez faire de l'art ou n'importe quoi. Vous posez, avant même de poser votre doigt sur un piano, on vous dit « Non, mais attends, t'es qui, toi ?» Il y a eu Stravinsky, Miles Davis, Coltrane, les Beatles, Led Zepp, enfin, le rap, Tupac Shakur.
Le Velvet Underground.
Le Velvet, tout ça. T'es qui ? Non, à un moment donné, il faut rejeter. On n'était pas du tout prétentieux, hein, c'est-à-dire, mais... faut quand même un peu avoir les prétentions de ce que vous voulez faire. Donc, on se trouvait beau parce qu'on se trouvait bon. Même si les gens ne trouvaient pas très bon, hein, mais ça, c'était encore autre chose. C'est un autre débat, ça. Hein.
Quand on dit Taxi Girl, on se rend compte que vous êtes vraiment dans la mémoire collective, Mirwaez.
Ouais, ouais.
Réellement, hein. Mais que ce soit Feu, ouais. Fred Chichin ou David Guetta aujourd'hui, ou même encore Étienne Dao. Voilà. Ouais, puis même, le groupe est vraiment respecté. C'est devenu un groupe mémorable, incontournable, avec des prestations scéniques extraordinaires. Ça se joue aussi beaucoup sur scène. Je voudrais qu'on parle effectivement de chercher le garçon. On a parlé de Mannequin, réalisé par Randy Scott.
Maxime Schmitt. Maxime Schmitt et Randy Scott qui nous a beaucoup aidés comme ingénieur du son.
C'est vraiment millimétré, c'est de l'orfèvrerie quasiment.
Ouais.
Elle représente quoi cette chanson pour vous ?
Cette chanson, alors je dirais pas lequel, c'était une reprise hein, qu'on a modifiée, comme souvent on démarre un titre d'un classique New Wave et on change les accords et à la fin ça devient un morceau à nous. Ça a été un peu la fin du groupe parce que malheureusement on a remplacé notre bassiste. En fait, c'est moi qui joue la partie de basse sur ce titre.
Qui a coûté davantage d'ailleurs la sortie du bassiste.
Ouais, voilà, et ça a été une très grave erreur parce que en fait, il y a eu une hystérisation de la situation et normalement, par exemple, je sais pas dans les Rolling Stones, Keith Richards parfois il jouait la basse hein, sur les morceaux. C'était pas une raison pour virer Bill Wyman. Nous on l'a fait, mais c'est parce qu'il y a eu une mise en scène. Les autres supportaient pas Stéphane. Le bassiste, qui sont des très bien sortis, il est astrophysicien. Et je dis souvent, c'est le seul qui a réussi de nous tous.
En tout cas, cette chanson, donc, elle fait partie de vous. Elle est,
ouais,
c'est incontournable. Vous parlez des paroles queers.
Oui, alors là, en ce moment, il y a tout un truc, le queer, le pas queer, le genre, etc. Mais en fait, c'était le premier titre queer. Puisqu'après, sur Seppuku, Daniel, qui était très ambivalent sexuellement et qui a fait son coming out vers ses 30 ans, a fini par signer Vivienne Vogue, hein, sur Seppuku. Donc, on peut dire que c'est le premier hit. Parce que des titres queer, il y en a eu avant nous, hein, certainement beaucoup. Mais là, c'était en France, synth-pop, moderne, et avec le passage dans les années 80. Voilà, donc on a inspiré quand même beaucoup de gens.
Avec Jean-Jacques Burnel des Stranglers, qui a été aussi un énorme soutien.
Oui, Jean-Jacques, que je salue, que j'adore, c'est un de mes rares héros, Jean-Jacques, et qui a produit Seppuku. Et voilà.
Et Seppuku, c'est vraiment un album qui finalement fait partie de vous. Est-ce que le fait d'écrire, Mirwaez, ce livre ne vous permet pas finalement de dégommer un peu la tristesse que vous avez gardée en vous pendant très longtemps?
La colère, justement. Justement, c'est, on en revient à la dépression. C'est que je pense que Taxi Girl était une dépression. D'abord, une dépression de l'époque, que nous avons tournée contre nous et on a ressorti ça sous forme musicale. Et ensuite, c'est devenu, dans la deuxième partie, une pure dépression parce qu'on s'est fait avoir. Alors, l'argent, tout ça, bien sûr, tout le monde se fait avoir, une fois ou deux dans la vie. C'est pas le problème. Il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a retourné notre colère contre nous-mêmes sous forme de dépression, mais là, parce qu'on s'est fait avoir. Sur la quatrième de couvre, il y a marqué « on se laissait pas faire ». Et non, c'est pas du tout laissé faire, ni politiquement, ni socialement, ni émotionnellement, mais sur le plan de l'argent. Et l'argent n'est pas l'argent pour moi. C'est-à-dire, c'est un circuit, ça a été un circuit malsain pour nous. C'est-à-dire de se faire déposséder. Voilà, c'est ça. Moi, je parle de dépossession.
Est-ce que ça fait du bien alors d'écrire ?
Oui, parce que tout revient. Enfin, en plus, j'ai une très bonne mémoire et tout revient. C'est assez hallucinant, moi-même. Donc, parfois, je me souviens pas. Il y a quelques rares acteurs encore qui sont là, comme Maxime ou Stéphane, le bassiste que je revois de temps en temps. Donc, il me corrige. C'est vrai que j'ai fait quelques fautes. Par exemple, Jacques Volson n'était pas roux. C'est sa fille qui m'a dit ça, Marianne. Il n'était pas roux et je croyais qu'il était roux. Donc voilà, bon, c'est des détails. Hein.
À travers votre écriture et surtout à travers Taxi Girl, on se rend compte que vous êtes très rock, Mirwaez.
Ah bah oui,
le rock, c'est la vie.
Bah, le rock, je vais faire une petite analogie. Si on regarde bien tous les courants, à part le jazz, qui sont issus de la pop culture, lequel a le mieux vieilli ? C'est-à-dire le rap, enfin je parle de gens qui auraient 80 ans aujourd'hui. Vous les voyez les rappeurs à 80 ans avec leur chaîne, faire je sais pas quoi. J'irais même le R&B, les gens qui disent bébé, je t'aime, pourquoi tu m'aimes pas. Enfin, pas à 80 ans, alors que le rock, c'est pas mal parce que vous voyez Keith Richards, il a 80, il prend sa guitare, il va dans un champ et il joue du blues. C'est pas mal, moi je trouve que ça vieillit bien. Et l'esprit, alors moi le rock, j'y crois plus du tout. Par contre, l'esprit du rock, oui, bien sûr. Chaque nouvelle génération et l'esprit du rock, on le retrouve dans tous les nouveaux courants, en fait.
La suite, c'est deux autres volets, hein. Vous l'avez annoncé pour en faire un.
En fait, Taxi Girl 82-86 sera la deuxième partie que je voudrais réunir en une seule partie. Et après, il y aura Mirwaez et après, il y aura le showbiz.
Merci beaucoup, Mirwaez, d'être passé dans le monde Mélodie sur France Info. Ça s'appelle Taxi Girl 1978-1980 et vous venez de le sortir aux éditions Séguier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cherchez le garçon, trouvez son nom, cherchez le garçon.